Avec Sandro Lichy en régie, bonjour à vous qui écoutez ceci. Vous entendez la nature, ce bain de nature, comme c'est bon. Sauf que parfois, ces sons qui sont le plus souvent synonymes de calme, de douceur printanière, peuvent devenir oppressants, voire menaçants. Ici, les oiseaux ne chantent pas, ils hurlent. C'est ce que dit l'une des protagonistes du film. Inquiétant, quoique plein d'animaux, plein de nature dont nous allons parler aujourd'hui, avec son réalisateur et son producteur, Ramon et Sylvain Zurcher. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour.
Merci, merci d'être en studio avec nous alors que sort en salle aujourd'hui votre troisième long métrage, Le Moineau dans la cheminée. Un titre qui laisse déjà percevoir l'atmosphère d'enfermement propre à ce drame familial très réussi. On se réjouit évidemment d'en parler avec vous en détail dans quelques secondes. Raphaël Wolf ne manquera pas de participer à cette discussion, j'en suis sûre. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Outre Le Moineau dans la cheminée, plusieurs films majeurs sortent en salle en ce mercredi.
Et le plus attendu, forcément, c'est un parfait inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet qui endosse donc le rôle de Bob Dylan, mais à sa manière, c'est un biopic qui enfin nous venge un peu des biopics traditionnels puisqu'il évacue un peu tous les clichés du genre. C'est vraiment une franche réussite. On va aussi parler, rien à voir, d'un film qui s'appelle Companion de Drew Hancock qui raconte l'histoire très étrange, satirique et ça flirte aussi avec le thriller horrifique d'un jeune homme qui sort avec une femme et on comprend assez vite que cette femme est un robot qui est censé évidemment être à sa disposition tel qu'il veut. C'est lui qui la programme. C'est un film assez original. Et puis La Pie voleuse, le nouveau film de Robert Guédiguian, toujours avec Ariane Ascari et Jean-Pierre Darroussin. Un film assez simple mais très très beau. Et d'ailleurs, j'ai pu avoir Robert Guédiguian et Ariane Ascari dans l'interview et je crois qu'on pourra les entendre demain dans Vertigo.
Absolument. Voilà. En tout cas, ce sont trois films dont vous débattrez avec Stéphane Gobeau du journal Le Temps qui nous rejoindra et auquel vous ajouterez chacun vos conseils du jour, sans oublier l'actu culturel où il sera question exclusivement de cinéma aujourd'hui puisque des nominations pour les prix suisses et pour les Césars sont tombées ce jour. On va décortiquer ça tout bientôt. Inquiétante ou apaisante, envahissante ou ressourçante, la nature n'est jamais loin de la culture. Elle est au programme de Vertigo aujourd'hui. Soyez les bienvenus.
Sur la première, c'est Vertigo.
Et tout de suite, on accueille donc
les invités de Vertigo.
Et ce sont vous, Ramon et Sylvain Zurcher. Merci donc d'être ici en studio avec nous. Alors que sort aujourd'hui en salle votre troisième long métrage, vous êtes frères jumeaux, nés, qui avaient grandi aussi dans le canton de Berne. Ramon, réalisateur et scénariste. Sylvain, producteur et scénariste. On va quand même commencer par une info de taille. Parce que ce matin, les nominations pour les prix du cinéma suisse sont tombées et le film qui emporte d'ores et déjà le record de nominations cette année, c'est le vôtre, Ramon et Sylvain Zurcher. Félicitations.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On y est pour rien d'ailleurs, c'est un pur hasard.
Pur hasard,
quand même.
Voilà, Le Moineau dans la cheminée dont nous allons parler est donc nommé dans les catégories du meilleur film de fiction, meilleur scénario, meilleur second rôle féminin pour Paola Schindler qui incarne Christina, on va parler de ce rôle-là, meilleur montage, meilleure musique, meilleur son. Est-ce qu'il y a une nomination qui vous touche tout particulièrement parmi toutes celles-ci, Ramon?
C'est difficile, en fait. Hier soir, c'était le moment où il y avait ces nominations, où on était à Soleure. Et en fait, le moment où peut-être j'étais le plus touché, c'était vraiment la nomination pour Paula Schindler. C'était la première fois qu'elle jouait dans un film. Et elle était encore à Berlin, à la formation. Et donc, ça, je trouvais très touchant et vraiment... Très magnifique, oui.
Et vous, Sylvain?
Pour moi, c'est similaire. C'était aussi cette nomination-là, parce qu'elle est très... elle n'est pas dans les nuages. Elle est une personne très, très sensible et par terre, restée par terre. Mm-hmm. Et comme c'est son premier rôle qu'elle joue, c'était ça aussi.
C'était
et
beau.
Aussi son, parce que là, on... c'était trois personnes qui ont collaboré et ça aussi je trouvais très étonnant et super. Mm-hmm. Ça me fait beaucoup de plaisir aussi.
Ouais, d'ailleurs, le son a une place majeure dans ce film-là, qui est un film d'ambiance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé l'émission en entendant ce son d'oiseau, parce que c'est l'un des sons comme ça qui plane sur ce long métrage. Dire aussi que ce long, il arrive après L'étrange petit chat, écrit par vous, Ramon, La jeune fille et l'araignée, que vous avez écrit, Sylvane, et tandis que vous, Ramon, vous penchiez déjà sur l'écriture du Moineau dans la cheminée. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même, vous avez en commun dans la famille une certaine fixation animale? Auquel cas, d'où vient-elle, Ramon?
Alors, la fixation animale, ça je sais pas, parce que nous, on n'avait jamais des animaux, parce que notre père a une allergie contre la poussière et contre les animaux, moi personnellement.
Une psychanalyse a développé autour de ça, je pense.
Et donc, en fait, dans notre vie, il n'y a pas une présence d'animaux. Mais peut-être c'était aussi ça, le fait qui a fait qu'on aimerait bien chercher les animaux, les chiens, les chats, pour les intégrer. Et aussi parce que ces trois films, c'est comme des huis clos. Il y a surtout des appartements, des chambres, des cuisines. Et pour qu'il n'y ait pas que les êtres humains, qu'il y ait aussi des autres choses comme des objets, des animaux. Presque c'était comme un moyen pour enrichir ce univers, cet univers dans ces huis clos.
Mmh. Raphaël Wolf.
Il y a quand même plus que ça. J'ai l'impression qu'en voyant votre film, une sorte de correspondance, en tout cas, entre l'état intérieur des personnages et justement le règne animal, comme si quelque part, à travers cette présence des animaux, vous essayiez aussi de faire remonter ce qui est enfoui un petit peu au plus profond, ce qui reste dans le subconscient des personnages.
Oui, peut-être aussi parce que c'est vrai, parce que comme les films, c'est toujours quelque chose qu'on voit. Mais les états d'âme ou des sentiments ou la psyché, toutes ces choses, ce n'est pas visible. Et donc, tous ces éléments, c'est de enrichir tes caractères, tes personnalités. Et donc, oui, c'est très important.
Et la présence des animaux, pour nous, c'est aussi un moyen comme pour ouvrir un espace pour des associations. Et ici, la présence des animaux qui peuvent voler, c'était important parce que pour nous, c'est aussi comme une histoire de libération. Alors, d'un état statique, comme en voyage à un état plus dynamique, plus volant peut-être.
Mmh, oui. C'est ça, donc il y a les papillons qui volent.
Les
aussi.
Papillons.
Et le moineau.
Le moineau, les poules. Et aussi
les lucioles,
effectivement. Mmh. Mmh. Raphaël, vous aviez une question?
Non, c'est que le moineau dans la cheminée, on peut littéralement le voir comme votre héroïne, Karen. Il me semble que...
Alors parlons peut-être de ce film-là, que tout le monde n'a pas encore vu, puisqu'il sort aujourd'hui en salle. Le petit résumé, le voici. On a effectivement un moineau qui est coincé dans une cheminée. Il va en sortir, il va virevolter, souvent autour des personnages, dans cet autre espace d'enfermement, finalement, qu'est la maison. On est dans une maison familiale où a grandi Karen, et où elle a choisi de vivre ensuite avec sa propre famille, son mari Marcus, dont c'est l'anniversaire, et leurs enfants, Johanna, l'ado qui est en guerre contre sa mère, Léon, le fils assez conciliant dans la famille, maltraité quand il est hors de cette maison par des garçons de son âge, Christina, la fille qui revient juste dans la maison le temps de ce week-end d'anniversaire, les rejoignent Jules, la sœur de Karen, son mari, pour ce qui est censé être donc une joyeuse fête familiale, mais c'était sans compter sur les tensions, les secrets de famille, les tromperies qui se jouent sous ce toit, et donc Karen est quand même le centre névralgique, disons. On écoute un peu de la bande-annonce et on en parle.
Sie kommen gleich.
Hallo.
Hallo.
Ich freue mich schon aufs Fest.
Ja, ich mich auch.
Eigenartig, wie laut die Vögel hier sind.
Ja, und singen die nicht. Die schreien.
Ich habe nie verstanden, wie du mit Markus und den Kindern hier einziehen konntest.
Mutter hat dieses Haus geliebt.
Manchmal kann ich sie spüren. Wenn sie mich gestreichelt hat, haben ihre Hände gezittert.
On l'a dit, il y a des animaux, hein. On les entend dans cette bande-annonce en version originale. Le moineau dans la cheminée, film que vous avez écrit et réalisé, Ramon Zürcher, et que vous avez produit, Sylvain Zürcher, sorti aujourd'hui en salle. C'est un film très atmosphérique, un huis clos, quoique on soit dans une maison ouverte, on l'a dit, sur la nature, dans laquelle la nature entre et sort comme bon lui semble. Mais c'est un film vraiment de sensations, très oppressant, très tendu, très inquiétant. Il est qualifié de drame hein, quand on le présente. En général, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de thriller, Ramon Zürcher?
En fait, j'ai l'impression que c'est comme un mélange, un mix de différents genres, de différentes atmosphères. Et bien sûr, il y a aussi des éléments dans le thriller, peut-être pas au début, mais peut-être vers la fin. Là, il y a vraiment des éléments de thriller.
Et dans cette tension quand même permanente, la manière dont les personnages sont même filmés dans ces longs regards, on a parfois l'impression même dans du Hitchcock, il pourrait y avoir...
Ou du David Lynch.
Ouais. Ou du Lynch. Mmh,
oui, absolument. Là. Ça, c'était aussi une inspiration, parce que je me souviens encore qu'il y a, je ne sais plus, une vingtaine d'ans, quand j'ai vu Mulholland Drive, quand il y a la construction d'un univers, d'une histoire... Et après, à un certain moment, tout l'univers change et le spectateur, il perd comme la confiance avec le monde, l'univers qui est construit. Ce fait ou ce moment, j'ai toujours apprécié, je n'ai jamais oublié et je ne veux pas dire trop de choses, mais ce que je peux dire, c'était vraiment une expérience très, très importante. Aussi pendant l'écriture de ce scénario.
Mmh. Il y a cette bascule, effectivement. Et puis, ce qui est propre à tout bon thriller, en effet, c'est qu'on ne sait pas à qui faire confiance. Hein. Les personnages sont tous ambigus, capables du meilleur comme du pire. C'est ce qu'on sent. Il y a Karen, donc, interprétée par Maren Egert, qui semble écrasée par le poids du chagrin, entre le deuil de sa mère, qu'elle n'a pas tout à fait fini de faire, la tromperie de son mari avec Liv, qui est la jeune femme que la famille héberge dans le cabanon, au fond du jardin. Elle n'est pas pour autant aimable, alors qu'elle est quand même avant tout victime, hein, ici. Elle semble assez dépourvue d'empathie pour son fils. Elle est assez dure avec ses filles. Qui est-elle pour vous, cette mère-là, cette Karen?
Alors, en Sylvain. Fait, un point de départ pour nous, c'était aussi de construire une mère. Alors, de faire un film avec un rôle d'une mère qui n'est pas d'une façon chaleureuse qu'on souvent on attend que les mères
sortir de cette expectation
et ce qu'on était intéressé était de construire un rôle d'une mère qui est différent et qui peut-être aussi à un certain point se donne qui remarque que peut-être ce rôle n'est pas un rôle qui est pour elle.
Mm-hmm.
Oui, et pour ça, pour nous, c'était aussi comme un jeu de jouer que les personnages changent les rôles, que quand il y a peut-être un rôle qui n'est pas mon propre rôle, peut-être c'est un rôle qui est mieux pour Liv.
Exactement.
Alors qu'il y a un jeu de rôle aussi. Oui, et pour nous, Karen, oui, c'était ça, de construire une mère qu'on ne voit pas souvent au cinéma, que peut-être aussi les spectateurs, spectatrices sont surpris par, mais pour nous, c'était ça un peu.
Mm-hmm.
Mais quand même, d'avoir de l'empathie et dans certains points, pouvoir comprendre ce voyage d'elle, de ce personnage.
Tous les personnages sont effectivement ont cette ambiguïté-là, sont attachants mais pas complètement non plus. Les relations sont faites de tensions, de trahisons, on l'a dit, sauf les relations, je crois, entre frères et sœurs et entre sœurs. Là, on perçoit de la douceur, on perçoit de la compassion, beaucoup d'amour, de soutien, que ce soit entre les deux sœurs, donc Karen et Jules. Jules, mais aussi entre les trois enfants qui se retrouvent comme ça, notamment dans cette scène, dans une chambre. Là, tout à coup, on se dit, là c'est bien, là il y a un petit cocon. Est-ce que vous seriez d'accord, chers frères jumeaux, pour dire que ces relations frères-sœurs, vous avez envie de les montrer de manière, disons, douce et bienveillante, que ça compte pour vous?
Oui, c'était très très important. Comme vous l'avez décrit, il y a différentes générations, il y a la relation entre Karen et Jules, mais aussi les trois, Léon, Christina et Johanna, et c'est comme des complices.
Des complices, oui.
Des complices, oui. Et ils vivent la vie dans cette maison, et c'est comme, oui, c'est important de dessiner ces relations avec une certaine chaleur. Avant, on a décrit que Karen, elle est un peu... Oui, elle est, bien sûr, elle est ambiguë et ambivalente, mais pour moi, elle n'est pas seulement froide, parce que pendant le film, on découvre toujours plus du passé, mm-hmm. mais aussi de Karen. Donc, je trouve qu'il y a des choses ambivalentes. Mais je dirais pas que Karen, elle est seulement le personnage et le corps froid, les autres plutôt chaud. C'est un peu fluide.
Absolument. Ça change. Oui. Et puis il y a une évolution, une quête évolution. D'apaisement, une quête de libération, et effectivement. Il y a de la musique évidemment qui participe de l'ambiance de ce film-là, comme celle-ci. Severance par Frank Umjai, c'est une musique qui s'impose peu à peu dans une scène qui nous fait, me semble-t-il, basculer quasiment dans le fantastique. J'ai pensé personnellement à Carrie de Brian De Palma, tiré du roman de Stephen King. Est-ce que c'est une référence possible pour vous?
Absolument.
Oui.
Ce qu'on a parlé avant, ce mélange de différents genres, parce que c'est aussi un peu les choses d'horreur, des choses de films italiens, des giallo, des choses comme ça. Alors, ce que j'aime en général, c'est des réalités un peu fluides, que ce n'est pas toujours la réalité du quotidien, alors là, une réalité naturaliste, que parfois c'est une réalité de songerie, de rêverie, une réalité d'intérieur. Et je trouve que ces réalités, par exemple, de Brian De Palma, de Carrie, c'est un peu stylisé, c'est une manière différente de travailler avec la lumière, les sons. Et donc notre film, c'est un peu comme le voyage d'une vie quotidienne dans un petit cauchemar, et après retrouver dans un autre rêve, songerie. Et en fait, c'est aussi ce qui m'intéresse chez les films de David Lynch, les livres de Murakami. Alors j'aime bien, oui, qu'on n'est pas toujours tout sûr où on est.
C'est ça, le réel et la fiction, le rêve et la réalité se mêlent. Raphaël Wolf.
Vous parlez de Giallo, d'ailleurs, qui sont ces thrillers horrifiques italiens, notamment de Dario Argento, qui a fait une trilogie d'ailleurs animalière avec Le chat à neuf queues, Les quatre mouches de velours gris et L'oiseau au plumage de cristal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous arrivez à imposer ce cinéma en Suisse, où d'habitude, je suis désolé, mais on n'est pas tellement habitué à un cinéma qui va aussi peu du côté du naturalisme pour aller du côté du thriller, voire de l'horreur. Vos citations, je reçois ça dans un dossier à Berne, a priori, c'est poubelle. Comment vous faites?
Peut-être poser la question au producteur.
Oui, peut-être.
Sylvain.
En fait, je dirais que, aussi déjà quand on était des ados, c'était ces films-là qu'on admirait, alors qu'on adorait.
Regardiez.
Oui, alors les films, mais aussi d'autres films comme Fatal Attraction, qui est aussi
Les Enfants Fatales, oui.
Oui, qu'à la fin, quand il y a ce triangle sexuel, bisexuel, alors là, il y a certaines liaisons aussi avec des films
qu'on adorait comme des ados. Oui.
C'est une chose de les aimer, mais après, il faut arriver à les vendre.
Oui, parce que les gens, généralement, qui sont à la tête de l'OFC, ils n'aiment pas ces films, voire ils ne les ont même pas vus. Donc, comment vous faites pour arriver à convaincre de produire, qui vous donne des sous-sous?
En fait, j'ai même pas... Est-ce que... On dit ce qu'on voudrait bien faire. Et jusqu'à maintenant, oui, en Suisse, c'était possible. Ça, on pouvait convaincre les comités.
Vous avez un pouvoir de conviction incroyable, comme Carrie à l'instant qu'on citait dans ce roman de Stephen King. En deux mots, comment est-ce que ça se passe, le travail, la collaboration entre vous deux? On voit bien que vous vous entendez sans doute très bien, mais est-ce qu'il y a des moments où parce que vous êtes également scénariste, Sylvane, donc Ramon, comment est-ce que vous travaillez sur ce film-là, par exemple?
Alors, ce qui est très très important, c'est... Comme on est des jumeaux, comme c'est une relation assez symbiotique, alors en fait, il y a quelque chose de très magnétique entre nous. Et ce qui est très important, c'est de trouver des éléments de séparation. Alors qu'il y a des espaces où seulement Sylvane existe, des espaces où seulement Ramon existe, qu'il n'y a pas seulement ce « we space », mais qu'il y a des « me space ». Et donc, quand on commence un projet, là, c'est toujours important de trouver ou de définir quel est le rôle de Sylvane, quel est mon rôle.
Le territoire bien délimité.
Oui, et qu'on a des responsabilités, qu'on ne les partage pas, mais par exemple que Sylvane, il est responsable pour l'écriture, pour le scénario, et donc moi, je suis presque comme un visiteur qui peut-être après quelques semaines lit une version et on en parle, mais qu'on n'est pas toujours collés ensemble. En fait, oui, c'est ce qui est important.
Et ça fonctionne, de toute évidence. On peut s'en rendre compte en découvrant cet excellent film, Le Moineau dans la cheminée, en salle dès aujourd'hui. Je signale également des séances spéciales en votre présence à tous les deux, Sylvane et Ramon Zurcher, ce soir à 20h au cinéma du Grutli à Genève, demain jeudi à Lausanne à 20h au cinéma City Puy, et vendredi 31 à Fribourg à 20h15, c'est au cinéma Corso. Un grand merci d'avoir passé ce temps avec nous.
Oui, un très grand merci à vous aussi.
Et le meilleur pour ces fameux prix du cinéma suisse.
Oui.
6 nominations quand même, chapeau.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ça s'appelle Winter Rose, c'est des Bees et c'est un titre qu'on entend dans le film que nous venons d'évoquer avec nos invités, le moineau dans la cheminée. À suivre, le débat sur les autres sorties en salle du jour, mais d'abord un focus sur quelques actualités qui font vibrer le vaste monde de la culture.
L'actu culturel dans Vertigo.
Les nominations pour les prix du cinéma suisse sont tombées aujourd'hui. On l'a dit déjà, le film nommé dans le plus de catégories est celui de Ramon et Sylvain Zürcher, qui étaient nos invités à l'instant pour leur film Le Moineau dans la cheminée. On notera aussi la présence multiple du Procès du chien de Laetitia Doche, notamment dans la catégorie très prisée de meilleure fiction, qui compte aussi Sauvage de Claude Barras, Les Paradis de Diane de Yann Gassman et Carmen Jacquier et Reinas de Claudia Reinicke. Alors ça n'est pas encore l'équilibre parfait entre film roman et alémanique, mais un peu plus quand même que l'an passé. Raphaël Wolf, peut-être votre regard sur cette sélection.
C'est évident, hein, il me semble. Après, c'est vrai que cet équilibre entre suisse allemand et suisse roman est toujours un petit peu source de conflits ou de polémiques. Là, on a quand même l'impression qu'on est plutôt du côté des romans, à part du nouveau le film de Ramon Zürcher. Maintenant, il y a quand même Reinas, hein, qu'il faut un tout petit peu suivre parce qu'il a glané pas mal de prix jusqu'à maintenant. Donc, ça pourrait être, à mon avis, un peu la surprise de cette édition. Voilà, on verra bien.
Hein. La cérémonie des prix du cinéma suisse aura lieu le 21 mars au bâtiment des Force motrice à Genève. Avant cela, il y aura la 50e cérémonie des Césars, prix du cinéma français, qui ont révélé ce matin également leur nomination. Et sans grande surprise, les films qui dominent largement dans toutes les catégories sont Le Comte de Monte Cristo, 14 nominations, L'Amour Ouf, qui en compte 13, Emilia Pérez, qui en totalise 12, dont 2 dans la catégorie meilleure actrice pour Zoé Saldana, Carla Sofia Gascon. Stéphane Gobeau, vous nous avez rejoint. Votre regard sur ces nominations ?
Elles sont sans surprise et après souvent ce qui sera intéressant de voir c'est si des films comme L'Amour Ouf, très populaires, qui ont beaucoup de nominations, se retrouvent finalement avec peu de prix, ça arrive parfois. On voit évidemment Le Boulevard, Emilia Pérez, Jacques Audiard, El Recordman, il a eu souvent énormément de nominations, énormément de prix, donc est-ce qu'il va continuer sur la lancée ? On peut estimer que lui, avec tout en plus, tous les symboles politiques même qu'il y a autour du film, on le voit avec les Oscars aussi.
Oui, et puis le comte de Monte Cristo arrive aussi à ce record parce qu'évidemment il y a tous les Césars techniques qui va rafler, évidemment. Donc en gros, on aura Emilia Pérez, quoi, tous les Césars, on va dire un petit peu artistiques, et le technique qui va aller au comte de Monte Cristo. On est quand même un peu étonné de ne pas voir un petit truc en plus qui a été le plus gros succès l'année dernière.
Meilleur premier film.
Effectivement, c'était un premier film. Mais c'est vrai que là, on se dit quand même que cette année, les Césars ont fait assez attention à, on va dire, calquer le nombre de nominations sur les films qui ont quand même engendré le plus de succès populaire. Donc là, on ne pourra pas leur reprocher, en tout cas, d'être, à l'écart du public, me semble-t-il.
Mm-hmm. On connaîtra donc les noms des personnes auxquelles iront les sculptures de César cette année le 28 février.
C'était l'actu culturel de Vertigo, à retrouver sur Play RTS.
Et on va continuer à parler cinéma.
La semaine dernière, vous nous aviez vivement conseillé d'aller voir le dernier film de Zouglav Bolovski.
Tout à fait. Oui.
Éternité furtive d'un siècle éphémère.
Vous l'avez vu ?
C'est formidable. À ce qu'on m'a dit, c'est formidable.
Vertigo.
Silence !
Le débat cinéma.
Ça, tout à fait bouleversifiant.
Depuis qu'on en parle, j'ai jamais vu ce film de Zouglav Bolovski, mais il va falloir s'y mettre.
Il est absolument formidable.
Bon, c'est formidable. Raphaël Wolf et Stéphane Gobeau du temps. Donc vous êtes là. On va foncer parce qu'on a un joli programme qui nous attend. À commencer par le biopic musical très attendu, Un parfait inconnu, sur Bob Dylan, la star de la folk et du rock, prix Nobel de littérature en 2016, apparaît ici à cette toutes jeunes années, sous les traits de Timothée Chalamet. Le film se concentre sur 4 années de 61 à 65. Le jeune Bobby Dylan, 19 ans, débarque en parfait inconnu, effectivement, à New York. Mais il va bientôt, de rencontre en rencontre, accéder à une notoriété qu'il déteste.
T'as fait tout ce chemin depuis le Minnesota. Pourquoi ?
Pour trouver l'inspiration.
If you're traveling in the North Country Fair.
Ils disent que personne n'a envie d'entendre ce qu'un gamin a écrit le mois dernier.
Eh bien, moi, en tout cas, j'aime tes chansons.
Where the winds hit heavy on the borderline.
Qui a écrit ça ?
C'est lui.
Remember me.
Et si on applaudissait John Baez, les gars ? Elle est jolie, Elle chante joliment. Peut-être un peu trop joliment. Tes chansons, c'est comme des peintures à l'huile dans un cabinet dentaire.
Tu peux être un vrai petit con, Bob.
If you go with snowflakes.
Ouais, il est pas que sympa ce Bob Dylan, en tout cas avec John Baez. Un parfait inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning notamment. Raphaël Wolff, qu'avez-vous pensé de ce nouveau film sur Bob Dylan ?
Mais beaucoup de bien. Écoutez, déjà la surprise de voir enfin un biopic qui écarte totalement les conventions du genre. On n'est pas dans une interprétation de Timothée Chalamet qui est que dans l'imitation et qui essaie de singer son personnage. C'est lui-même qui chante, d'ailleurs, on l'a entendu, mais il va ailleurs. Je trouve qu'il capte quand même un certain esprit initial de Bob Dylan sans essayer de lui coller aux basses sans arrêt. Et puis le film va concentrer justement son action plutôt que de nous étaler comme ça des scénettes à n'en plus finir qui survolent la vie et l'œuvre de quelqu'un. Là, on est vraiment dans un regard qui est très précis, qui raconte comment ce jeune artiste va devenir le porte-voix d'une génération qui traverse, on le voit à peine comme ça à travers des écrans télé, bah en gros l'assassinat de Kennedy, la guerre froide, on voit la baie des cochons et le risque nucléaire qui se profile. Et arriver à un moment où lui-même se sent enfermé quand même dans une case qu'on lui prête, il accède à la notoriété, ça devient l'icône absolue de la chanson folk et on veut sans arrêt lui faire chanter toujours les mêmes chansons, il lui en peut plus. Il est sans arrêt en fait dans un avenir permanent, il a le regard braqué ailleurs et c'est assez fascinant de voir que le film traite vraiment cette question du temps de façon tout à fait organique. On a les mentors, Woody Guthrie, qui était un chanteur de folk que Bob Dylan adorait, et il est venu en fait à New York pour le voir. Il le rencontre et il voit un vieux monsieur qui est à l'hôpital et qui est en train de mourir. Donc le passé déjà qui a représenté comme ce socle de cette passion, il est déjà en train de disparaître. Il y a ce présent qui est incarné par John Baez, mais qui est déjà en train d'arriver justement de venir du passé, et lui qui a conscience qu'il faut qu'il change sans arrêt de rôle quelque part. Il est lui-même dans une forme de versatilité totale et constante que le film, je trouve, montre très très bien. En plus, il y a beaucoup de moments musicaux qui sont mais extraordinaires. Moi, j'ai eu des frissons en entendant, par exemple, The Times They Are Changing. J'ai presque l'impression de l'entendre pour la première fois. Et c'est quand même assez rare, je trouve, dans un film musical, de parvenir à cette puissance-là. Moi, j'ai trouvé que ce film était absolument extraordinaire.
Ouais, un film beaucoup sur une révolution musicale, en fait, hein, Stéphane Gobeau.
Bah oui, absolument. On est au début des années 60. Maintenant, le folk paraît évident. On voit partout des jeunes artistes avec une guitare en bandoulière, voire en harmonica et tout. Non, mais c'est clair. Enfin, il y a eu des nouvelles vagues du folk, anti-folk, néo-folk, etc. Là, on est vraiment aussi, on parlait de génération. Bah, pour les plus jeunes générations, où Dylan,